Par un glacial matin d'hiver, quatre amis se les pelèrent. Bien heureux, leur refuge ils trouvèrent dans cet antre de l'amour et de la mort de la guerre qu'est Radio Canu. Ils étaient K. Ils étaient nus. Mais ils n'avaient pas froid, car la bravoure de leurs cœurs hypertrophiés exhalait de chaque pore de leur peau, si douce, si douce, si douce. Le dark était vaincu, et malgré la neige, la grêle et la déchéance de nationalité, dans ce petit studio de Radio Canu, la vie recommençait. Et nous pouvions dire, tous ensemble, tous en cœur, historiquement,
je crois pouvoir dire historiquement ceci. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire.
Nous pouvons changer les conditions de la jeunesse et les conditions de la vie.
Montez, oiseteux !
Les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger.
Ashishokiro, poète armé de stylo, réserve de créativité, hangar, silo.
Rap, littérature, révolution.
Et oui, c'est Montaigne Oiseteug, rap, littérature et révolution qui débarque sur Radio Canu, comme tous les lundis de 13 à 14, avec une équipe qui réchauffe le cœur aujourd'hui pour, voilà, c'est être ensemble face au froid lyonnais. J'ai nommé, il est avec nous dans les studios, Eugène Yonegro. Bien, Yonegro.
Yo, salut à tous, bien, bien, bien.
Le chroniqueur Bertrand Vivien qui est là. Et voilà, une petite nouvelle pour l'émission, la ravissante, la chaleureuse, à la voix de velours, Elena, qui est là aujourd'hui avec nous pour une émission plus balèze que jamais, parce que une émission du grand froid, du grand nord, une émission aujourd'hui sur les Vikings. Alors vous allez me dire, quel rapport entre les Vikings, le rap, la littérature et la révolution? Eh bien justement, c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui en compagnie de Bertrand Fibien, qui est là pour nous parler des Vikings.
Oui, tout à fait. Si tout le monde les connaît, les Vikings, tout le monde peut-être ne connaît pas très bien les Vikings, parce que peut-être que vous avez une certaine image des Vikings, chacun d'entre vous, mais qui n'est pas forcément la bonne et qui est surtout véhiculée par soit des séries télé, des films, des dessins animés ou
Astérix.
Et voilà, Astérix notamment.
Et Bertrand Fibien, aujourd'hui, vous proposez de combattre les préjugés.
Disons de nuancer les préjugés. Donc, parce que, ouais, alors déjà, je vais peut-être partir de la définition historique d'un viking. Donc, un viking, c'est un paysan propriétaire libre et citoyen à part entière qui s'en allait de temps à autre prendre part à une expédition militaire. Donc là, bon, c'est assez vague.
Quoi. Ouais, mais quand même, il veut se battre, le viking, quoi.
Oui, ouais, de temps à autre, il part en expédition militaire, oui. Mais s'il se bat, c'est peut-être pas seulement par soif de sang, mais c'est parce que parce qu'il en a besoin. Donc c'est donc déjà pour situer géographiquement, donc les Vikings c'était en Scandinavie, donc à peu près Norvège, Suède, ils sont allés jusqu'en Islande, etc. Donc ils ont commencé leur quête dès le 8e siècle après Jésus-Christ. Et donc si ils ont été obligés de faire ça, c'est parce qu'ils étaient allés trois sur leur terre qui était plutôt pauvre. En fait, ils avaient besoin d'argent pour acheter d'autres terres fertiles. Donc c'est pour ça qu'ils menaient des expéditions et qu'ils pillaient un peu partout pour récupérer l'argent. Et s'ils arrivaient à faire ça aussi bien, c'est parce qu'ils étaient dotés d'une arme assez merveilleuse. Donc le fameux drakkar, leur bateau, donc qui est donc défini comme un bateau à quille souple d'un seul tenant. C'est un bateau qui est à la fois mobile, solide et léger. Donc il est un peu parfait parce qu'il leur permet de couvrir énormément de distance surtout, donc ils peuvent traverser des fleuves entiers en le portant à quatre seulement. Donc c'était très pratique pour eux. Et ils ont vraiment une influence partout dans l'Occident. Donc s'ils sont partis de leur Scandinavie, etc., ils sont allés jusqu'en Angleterre, en Normandie. C'est eux qui ont découvert le Groenland et peut-être même l'Amérique. Et ils seraient même d'ailleurs allés jusqu'à Byzance. Et tout ça jusqu'au XIIe siècle. Donc c'est quand même un peuple qui a été très important. Et
pendant quatre siècles, quoi. C'est ça, partout. Du 8e au 12e, on a les Vikings qui foutent le bordel en Europe.
Qui foutent, voilà, partout. Justement, on a eu les textes qui nous parlent de Vikings. Principalement, ce sont les textes de ceux qui ont été conquis par les barbares, enfin par ceux qu'ils appellent les barbares. Donc, donc la grande différence qu'il y avait entre les Vikings et les autres à ce moment-là, c'est que les Vikings étaient presque les seuls à rester païens, alors que le christianisme, s'était étendu un peu partout. Et donc, quand les autres, en fait, par exemple, les Anglais qui nous parlent des Vikings, ils en parlent comme des barbares païens, donc qui font peur. Et donc, ils sont donc très mal vus forcément par leurs assaillants. Mais bon, ça c'est normal.
Ils font un peu peur, quoi.
Mais voilà, donc c'est cette image-là, en fait, qu'on retient un peu tout le monde, des espèces de gros barbares bourrins qui viennent tuer tout le monde et qui sont complètement sauvages.
Et pourtant, c'est pas l'image qu'aujourd'hui vous allez nous montrer des Vikings, si je me trompe. Vous allez nous montrer que les Vikings étaient aussi des gens sensibles, un peu des poètes.
Oui, mais au-delà même d'être simplement des poètes, c'était juste une civilisation avancée. Et donc, où les vertus, selon Régis Boyer, donc les vertus d'ordre et d'entreprise qui régnaient chez les Vikings manquaient un peu dans cet Occident un peu décadent.
Dans des entreprises, moi, ça me fait penser à des choses. C'est-à-dire.
Non, en fait, je pense que c'est juste ce qui veut dire qu'ils étaient organisés et qu'à ce moment-là, l'Occident, c'était un peu n'importe quoi. Donc, ils arrivent à émettre un certain.
Ils avaient un projet, quoi. Entreprise dans le sens où les mecs savaient où ils allaient, quoi. Ils étaient là et leur projet, c'était d'aller foutre le bordel en Occident, quoi.
Voilà, c'était. Et puis, ils étaient entrepreneurs, en fait. C'est ça l'entreprise.
Ah, ils avaient. Ouais, d'accord.
Ils faisaient quelque chose, en fait, alors que c'était un peu.
Ah, ils avaient des initiatives.
Voilà. Et puis, en plus, au-delà de ça, c'était d'excellents commerçants. Donc, ils ont ainsi ouvert une sorte de route commerciale un peu partout par leur voyage, finalement.
Donc un peu des capitalistes, mais des capitalistes poètes, c'est ça.
Voilà, mais ils ont, par ailleurs, une certaine intelligence, une finesse, dans la mesure et toujours un sens de l'honneur qui aussi laisse entendre quelque chose de plus positif. Et donc oui, on peut aussi adoucir l'image du Viking en disant que le Viking est un poète et que la poésie est très importante dans la culture nordique, donc. Et c'est ce qui nous vaut d'ailleurs l'Edda poétique. Donc, l'Edda poétique dont je vais parler aujourd'hui.
Ah, le livre Bertrand Fibien, vous nous avez amené aujourd'hui, voilà. Un très ancien livre, une sorte de bible du Viking.
C'est un peu ça, oui. Donc, c'est un ensemble de textes et de poèmes réunis dans ce qu'on a appelé, donc, l'Edda poétique. Donc, qui nous montre toute la mythologie et certaines valeurs également des Vikings. Et notamment, c'est par rapport à partir d'un poème. Qui s'appelle le Havamal, ou dit du Très-Haut, donc le Très-Haut c'est Odin, donc le dieu suprême, et qui est une sorte de livre où il instaure un peu la morale des Vikings, le mode de vie à suivre, etc.
Donc un livre qui aurait été écrit par Odin, c'est ça?
Voilà, en fait c'est Odin qui parle.
D'accord.
Donc c'est un poète qui prend la voix de Odin, et Odin qui dit bon, moi je veux ça, faites ci, faites ça.
Et qui en vrai est écrit au 8e siècle, c'est ça l'idée?
Oui, voilà, entre le 8e et le.
Et le poète, c'est comme un prophète, alors.
Alors ici, oui, en fait, c'est un peu étrange parce que juste ils reprennent la voix de trucs sans vraiment dire d'où ça vient. Enfin, il y a une explication que je vous donnerai.
Vous gardez un peu de suspense.
Après, voilà.
Mais c'est si bien.
Donc, oui, d'ailleurs, j'aurais dû le faire maintenant, en fait. Donc, avant de parler du Havamal, peut-être, je vais vous évoquer donc, comment ils expliquent la naissance de la poésie, en fait, chez les Vikings. Donc les dieux, en fait, sont séparés entre les As et les Vannes. Bon, ça j'expliquerai un peu plus tard. Et en fait, ils ont eu une guerre, mais finalement, ils se sont réunis pour se mettre d'accord. Et donc, au moment où ils se réunissent, donc voilà ce qu'il y a écrit. C'est quelqu'un qui demande l'origine de la poésie. Donc, l'origine en fut que les As étaient ennemis du peuple qu'on appelle Vannes, et ils se rencontrèrent pour débattre de la paix. De part et d'autre, ils prirent des garanties de telle façon que les deux camps allèrent à une cuve et crachèrent dedans. Donc ça, c'est une coutume un peu bizarre où ils crachent au même endroit pour se dire qu'ils sont d'accord.
Un peu thug, tout ça.
Voilà. Donc, mais quand ils se quittèrent, les dieux ne voulurent pas que ce gage de paix se perdît et ils le prirent en firent un homme. Il s'appelle Kvasir, et il est si sage que nul ne peut lui poser question à laquelle il ne sache répondre. Il s'en alla un peu partout dans le monde pour enseigner la sagesse aux hommes. Donc en fait, voilà, cette bouillie de crachat de Dieu, naît Kvasir, donc un homme si sage, donc il répand sa bonne parole partout. Et un jour, il rencontre deux nains, Fialar et Galar. Et ces deux nains, en fait, tuent Kvasir et récupèrent son sang.
Il tue le mec qui est né du crachat.
Il tue le crachat humain. Et il récupère son sang dans trois récipients. Donc, qui s'appellent Audrerir, Son et Bonne. Donc, je vous les nomme parce qu'on en entendra parler à la fin.
D'accord.
Et donc, ils finissent par le tuer, récolter son sang. Et de ce sang, en fait, il jasoute du miel et ça fait un hydromel. Et quiconque boit de cet hydromel, devient poète, en fait. À la parole du
Philippe. Faut quand même avoir les couilles de boire un truc qui est fait à base de crachat, quoi. Mais après, tu peux devenir poète, donc c'est un peu le jeu en vaut la chandelle, quoi.
Et finalement, donc pour l'instant, c'est les nains qui possèdent cet hydromel. Mais après quelques péripéties, ils se retrouvent aux mains des géants. D'un géant donc, qui s'appelle Sutungre. sauf que Odin convoite bien sûr cet hydromel. Et donc il se rend avec encore d'autres stratagèmes, enfin, chez Sunturne et principalement chez sa femme, Gunnlod. Donc là, je vous lis la fin du passage qui explique un peu la naissance donc de la poésie d'Odin. Odin arriva à l'endroit où était Gunnlod et coucha trois nuits avec elle. Et elle lui promit de lui laisser boire trois lampées d'hydromel. Au premier trait, il vida tout Audrerir, au second Bonne, au troisième Son. Il avait donc bu tout l'hydromel. Ensuite, il se transforma en aigle et s'enfuit en volant aussi vite qu'il le put. Mais Sutungre aperçut l'aigle ensuite et se transforma en aigle à son tour et vola à sa poursuite. Quand les Ases aperçurent Odin qui arrivait en volant, ils avancèrent leurs cuves dans l'enclos et quand Odin arriva dans Asgard, il recracha l'hydromel dans les cuves. Mais il s'en était fallu de si peu que Sutungre ne l'eût rattrapé qu'il laissa échapper une partie de l'hydromel par derrière. De cet hydromel-là, on ne fait aucun cas. Quiconque en veut peut en prendre, et nous l'appelons le lot des poètes de pacotille. Mais l'hydromel de Sutungre, Odin le donna aux Ases et aux hommes qui savaient composer. Voilà pourquoi nous appelons la poésie butin d'Odin et sa trouvaille et sa boisson le don des Ases et boisson des Ases.
C'est toute une histoire, quoi. Ils ont même expliqué pourquoi il y avait des mauvais poètes, quoi.
C'est intéressant parce qu'on ne trouve pas.
Et justement, en fait, plus on boit d'hydromel, meilleur poète on est. Et moins on en boit, plus on est. Enfin, je veux dire, même si on en boit un petit peu, on est poète, mais on est mauvais poète, c'est ça.
Bah, en fait, on est mauvais poète quand on recueille celui qui est sorti de la bouche d'Odin un peu dans le pacotille, qui s'est rapporté dans le monde, donc il a été un peu souillé, donc c'est plus le vrai hydromel. Et donc c'est que quand il est donné par les dieux finalement en fait qu'il acquiert une certaine importance.
Oui, parce que je trouvais ça un peu étonnant que le mec boive les trois coupes. Il aurait très bien pu en boire qu'une seule.
Oui, mais en fait il les boit pas vraiment. En fait il les ingurgit dans son corps et après il les recrache dans une cuve.
Ah oui, d'accord.
Oui.
Propre tout ça. Voilà, c'est des Vikings. Hein.
Donc voilà, c'est des Vikings, mais quand même ils apportent une certaine importance à la poésie, donc qui est censée être quelque chose de très important,
de divin,
de noble. En fait, les guerriers étaient souvent également poètes, en fait. C'est pour ça qu'ils pouvaient raconter tout le temps leurs histoires. Et donc, il y a notamment donc, cette histoire, donc, le Havamal, donc, c'est dit du Très-Haut, donc, qui serait raconté par Odin. Et donc, qui nous informe un peu sur toute l'éthique et la morale des Vikings. Donc, alors, tout d'abord, pour pas trop rompre avec ce qu'on croit savoir des Vikings, on va parler donc des femmes.
De leur rapport aux femmes, quoi.
Et du rapport des Vikings aux femmes.
Il y en a une qui est là prête à réagir.
Quand on les voit comme ça, les Vikings, on se dit, bon, ils doivent pas être très très féministes. Et en effet.
C'est pas leur délire.
Ils ne sont pas énormément féministes. Et donc, parole de fille, nul ne devrait croire. Voilà. Et donc en gros, il nous dit qu'il faut faire attention, confiance à. En les femmes et que ça ne sert à rien. Bon, même s'il nous dit la femme d'un autre ne séduit jamais pour en faire ta maîtresse, donc bon, t'as pas le droit non plus de coucher avec tout le monde, mais bon, faut pas non plus écouter les femmes, donc ça reste assez.
Puis même de dire ne couche pas avec la femme de ton voisin, c'est pas non plus être très féministe, quoi.
Non, c'est pas être féministe. C'est déjà. Ah oui, parole de fille, nul ne devrait croire, ni ce que dit femme mariée. Car sur une roue tourbillonnante, leur cœur a été façonné, un constance a été placé dans leur sein.
D'accord.
En gros, c'est dans les femmes un cœur vrillé, donc il ne faut absolument pas les écouter.
Je vois que Elena est complètement outragée, quoi. Ah
ouais,
outrée.
Vraiment.
Oui, oui, bah c'est des vikings.
Oui, mais ça ne justifie en rien,
non,
voyons.
Non,
mais...
bien sûr.
Et c'est assez paradoxal en plus parce qu'on a l'impression que à partir du moment où elles se marient, l'inconstance est placée dans leur cœur. Ça voudrait dire que.
Ah non, il y a les deux. Ouais. En fait, parce qu'il fait une différence je crois, entre les filles et les femmes mariées, parce qu'il dit filles la première fois.
Ouais, ouais.
Et, mais c'est pour dire bah, les femmes mariées, c'est pareil quoi.
Oui,
donc voilà.
Mais du coup, c'est qu'est-ce qui justifie ça, enfin, dans leur mythologie
parce que... Bah rien. En
bah,
fait.
C'est la parole d'Odin, meuf. Tu respectes.
C'est juste que c'était une époque où ils étaient tous pécho. Alors voilà quoi.
Ok.
Bah, pour lui, il fallait faire attention. Donc après, donc vous savez donc que les hommes étaient, enfin que les Vikings étaient bien macho, ça on peut pas adoucir le trait.
Ouais.
Et donc maintenant, pour aller toujours dans les clichés, on peut évoquer la question de la bière. Parce que oui, oui, donc les Vikings buvaient énormément de bière, donc ils buvaient dans des, vous savez, des cornes de vache là, des cornes à boire. Mais il semble quand même que Odin nous met en garde un peu contre l'excès de bière.
Ah.
Et oui, oui.
Étonnant. On ne serait pas attendu à ça de sa part. Mais bon.
Et oui, il dit n'est pas aussi bonne que bonne, on l'a dit, la bière pour les fils des hommes, car plus il boit, moins l'homme garde le contrôle de ses esprits. Et ensuite, mais il est pire viatique à transporter par la plaine qu'un trop grand appétit de bière. Donc en gros, il nous dit que bon, boire de la bière, ça reste quand même bien, mais qu'il ne faut pas en boire trop.
Ouais, mais c'est avant l'heure, c'est le petit truc machin marqué en bas des bières à consommer avec modération.
Voilà, c'est
quoi.
Ça.
Hein? Quel visionnaire ce Odin.
Même si quand même, s'il a besoin de le dire et s'il en parle si souvent, c'est que quand même la bière devait être très 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 importante à cette époque-là. Dans un autre paragraphe, il nous dit mais trop tard en quelques-uns, j'arrivais trop tôt en quelques-uns des lieux, mais trop tard en quelques autres, la bière était bue. Donc en gros, s'il y a plus de bière, c'est la fin, il est trop tard, enfin c'est quand même la merde, quoi.
Oui. C'est pour ça qu'il faut pas trop en boire, en fait.
Ouais, en fait,
c'est qu'il faut lui en laisser.
C'est pour lui en laisser, oui, peut-être.
Oui, et puis à l'époque aussi, la bière, c'était une manière de conserver les céréales, quoi, donc c'était pratique.
Oui.
Au lieu de se faire bouffer sa récolte par les mythes ou je sais pas quoi, voilà, on se faisait de la bière et on pouvait quand même manger ses céréales tranquille.
Voilà, oui, la bière, donc l'alcool toujours, mais dans la mesure. Parce que la mesure... Et donc là, toujours la demi-mesure et la sagesse sont finalement très importants dans ce peuple assez, assez rustre quand même, de première vue. Et il y a quand même une certaine philosophie chez eux, et ils louent notamment énormément la sagesse. Pour dire que oui, donc être sage, en fait, c'est cool. Donc il faut savoir réfléchir bien. Donc il nous dit par exemple... oui, alors non, je me suis perdu. En fait, il mime la sagesse, donc en gros, c'est bien d'être sage, et en fait, il le fait en un diptyque avec le sceau. Donc d'un côté, il loue le sage pour, en fait, condamner le sceau. Le sceau qui est décrit un peu comme... Enfin, oui, bon, forcément comme un idiot, mais qui montre bien... il y a plein de phrases qui commencent, enfin de paragraphes qui commencent par le sceau, l'inavisé. Le sceau pense tout savoir s'il se tient en un coin tranquille, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que s'il doit, c'est ce qu'il doit répliquer si les hommes le mettent à l'épreuve. Ou alors, le sceau veille toute la nuit, réfléchissant à tout et à rien. Ainsi, il est épuisé quand vient le matin. Toute peine est restée celle qu'elle était. En gros, le sceau est tellement con qu'il n'arrive même pas à dormir, tellement il est. En fait, il est tellement bête qu'il ne sait pas dormir, j'ai l'impression.
Mais c'est un sceau qui réfléchit trop plutôt que pas, c'est quand même.
Ouais, voilà, mais parce que oui, parce qu'il y a un trop plein, en fait. Mmh. Le trop, c'est pas bien. Alors que, et même dans la sagesse, il nous dit obligatoirement que la sagesse, c'est bien de la sagesse, mais il faut pas être trop sage non plus, parce que sinon, ça nuit. Pareillement, il ne faut pas trop parler, parce que trop parler aussi, c'est forcément mal, parce que c'est le trop. Donc le sceau qui va parmi les hommes, le mieux est qu'il se taise. Nul ne sait qu'il n'est capable de rien, à moins qu'il parle trop. On ne sait pas qu'il ne sait rien s'il s'abstient de trop parler. Celui-là seul se tient pour sage qui peut tout mêmement faire questions et réponses. Les fils des hommes ne peuvent jamais cacher ce qui se passe parmi les gens. Bon, en gros, trop parler, c'est me faire montre de sa stupidité. Mmh. Être trop sage, c'est être chiant, finalement. Et donc, il faut quand même rester dans la demi-mesure, même si la parole reste quand même quelque chose extrêmement important. Donc, comme on l'a dit, c'est des poètes. Et donc, il faut être éduqué, il faut bien savoir parler. Quand on est un viking, quand même. Donc il est écrit, si l'on veut être savant à maintes choses, il faut souvent parler de bonnes choses. Idiot énorme s'appelle celui qui ne sait guère parler. C'est le propre des sots. Donc là encore, pour être sage, il faut bien savoir parler. Et les sots, c'est ceux qui sont mal éduqués, qui parlent n'importe comment. Donc il y a quand même une certaine éducation requise chez les Vikings. C'est pas juste des gros porcs qui font que boire et rôter partout, quoi. Il faut avoir une certaine sagesse, une certaine mesure, et même une certaine prudence aussi, parce qu'il dit souvent, quand j'entre quelque part, je regarde partout pour savoir s'il y a pas des gens qui veulent me tuer, etc. Donc il faut être très prudent. Enfin, le tout début, c'est avant de pénétrer, que l'on surveille à la ronde, que l'on examine toutes les entrées, car on ne sait jamais où les ennemis siègent sur les bancs de la salle. Donc partout, il faut toujours être prudent et faire attention à ce qu'on veut. Mais un des traits quand même les plus importants dans cette éthique nordiste, c'est l'honneur et la réputation. Donc les deux paragraphes peut-être les plus célèbres dans tous les Eddas poétiques, c'est les deux qui suivent. Donc « Meurent les biens, meurent les parents, et toi tu mourras de même, mais la réputation ne meurt jamais, celle que bonne l'on s'est acquise, meurent les biens, meurent les parents, et toi tu mourras de même, mais je sais une chose qui jamais ne meurt, le jugement porté sur chaque mort. » Donc ce qui est important pour eux surtout, c'est l'honneur qu'ils auront après leur mort, c'est d'avoir accompli de bienfaits pour être bien jugés et aller dans le Valhalla auprès de d'Odin. Mais ça, nous en reparlons
et
plus
oui,
tard.
Parce que dans une seconde partie, vous allez nous parler de cette mythologie nordique plus en détail. Là, vous avez vraiment fait un côté très historique, nous replacer dans l'histoire des Vikings, etc. Mais voilà, après on va glisser dans l'imaginaire et la folie de ces Vikings, dans la violence du game. Et avant ça, on va s'écouter un petit son. Alors voilà, j'ai fait un effort, je suis allé chercher un son de rap d'Oslo. Hein. Donc voilà, c'est Carpe Diem avec un K, c'est le nom du groupe. Et le titre de la chanson, c'est Glasscar, ça veut dire « je brise le verre ». Donc je sais pas si ça parle d'alcool, parce que j'ai pas très bien compris les paroles, et n'étant pas voilà très habitué à cette langue, ça ressemble à du viking. Ouvrez bien les oreilles.
Med fanskap har blitt en jævla vanesav Ja, jeg kamerat Klart vi kan ta en prat Når livet overrasker mer enn kinderegg og attentat Jeg sier du henger med feil folk til feil tid Du sier fuck det, de har cash og feit bil Og når jeg bråk kommer tid til å være der Chirag, du jo svarting kjær og bør vite hva her Jeg sier du smart, rart du ikke skjønner det Svartinger med kunnskap farligere enn de med gønnere Du sier gata lært deg mer enn en lærer kan Har du det ikke skrælemann, det handler om å være mann Mora di griner Far din ber deg stanse Du vet han kom til Norge for å gi deg bedre sjanse Jeg ikke han, så jeg kan ikke ber deg skjerpe deg Det ikke sikkert jeg kan, men jeg hypp på hjelpe deg Glass på hit, pass på Fyk litt neve Sparti, hardt li nok Fakti, stopp dritt Bil, gull og glitter Alle tingene, men en smule bitter Med saltvann på skinnene Du hadde en kjæreste, men hater han og minnene Glad igjen allikevel og håper at han ringer deg Nå sitter du med blanke øyne, kvalm og guttelei Du deppa, men det hjelper ikke å kutte seg Jeg skal ikke ljuge og si jeg vet hvordan du har det Men helt seriøst, det feil hvordan du tar det Du har ikke lenger gutt til å si nei til drinkene Si nei til gutta som har de ekle flikkene Så du puler folk du ikke hypp å ligge med Lukker bare øya og later som du liker det Jeg setter deg før Loker rundt på party Tror du deg selv, men en tro kopi av Barbie Du har ikke selvtillit, greit, det ikke din feil Men hva forventer du med rommet fullt av meg og inside? Du vet kjær, det ikke fallet som viktig Det hvem som tar deg mot deg om du lander riktig Nå må du reise deg, det gått for lang tid nå Jeg vet jeg ikke faren din, jeg måtte bare si noe Glass på, nei, feil vei Kast feil bilde, feil deg Kast opp nok, feil deg Gått feil Stop!
sympa cette petite instru du groupe Carpe Diem avec un K, le groupe norvégien, dans leur chanson Glasscar. Vous écoutez toujours Montaigne Oiseteug sur le 102.2, la plus rebelle des radios, émission de rap, littérature et révolution, avec aujourd'hui une expédition dans le Grand Nord, dans cette littérature nordique des Vikings, hein, la base de leur écriture, la base de leur philosophie, de leur mythologie, et concentrée dans l'Edda poétique que monsieur Bertrand Fibien nous décortique aujourd'hui.
Oui, alors déjà, avant de passer à autre chose, je vais peut-être revenir sur
un autre aspect du petit truc, Avamal,
hein. Que je n'ai pas eu le temps de dire. C'est juste que oui, donc juste un dernier aspect donc de ce poème qui dicte un peu la vie de ces Vikings, c'est la très importante partie sur les runes et la magie, en fait, parce que les Vikings étaient aussi des magiciens et ils pratiquaient beaucoup de runes qu'on retrouve un peu partout. Donc c'est des pierres avec des lettres gravées dessus à qui on prêtait certains pouvoirs magiques, et c'est quand même très important dans leur culture, en fait. Toute cette la prudence, la méfiance, donc le bon sens, la ruse et la magie sont quand même assez loin des images qu'on a conventionnellement d'un Viking, qui est plutôt pour nous une brute,
un bourrin
cruel et barbare. Donc voilà, ils sont pas aussi bourrins qu'on pourrait le croire. Même si quand même, faut pas oublier que ça reste quand même des guerriers, des véritables guerriers. On a tout de même quand même des poèmes épiques et des grands faits héroïques qui sont récités, et notamment leur mythologie et leurs dieux sont assez violents, on va dire. Et donc c'est peut-être ce à quoi on va passer maintenant, cette mythologie à proprement parler.
C'est ce que j'allais vous proposer, monsieur Fibien. Oui, expliquez-nous un peu le monde viking, de la mythologie viking.
Oui, alors déjà, un fait assez intéressant, c'est que les dieux sont divisés en deux, en fait, en deux races différentes ou deux familles différentes. Donc on a d'un côté les As et de l'autre les Vannes. Donc les As, dont les principaux dieux donc sont Thor, Odin et Tyr, sont eux des divinités plutôt guerrières et judiciaires et magiciennes, en fait, mais c'est surtout des guerriers et qui font respecter la loi. Alors que de l'autre côté, on a les Vannes, on a Njordr, Freyr et Freya, donc qui sont plutôt des divinités de l'amour, de la fécondité, de la paix, du bonheur.
C'est plutôt des femmes.
De la volupté. Et voilà, donc il y a une femme, là, Freya. Et d'ailleurs, Njord aussi serait un peu bisexué, on ne saurait pas trop. Parce que soit on a l'hypothèse qu'il a couché avec sa sœur, parce que c'est le père de Freyr et Freya, en fait. Et donc il aurait eu ses deux enfants avec sa sœur, mais sa sœur qu'on n'a jamais vue, qu'on ne sait pas à quoi elle ressemble, qu'on ne connaît pas. Donc peut-être qu'en fait c'est lui-même.
Enfin, bon, ça, c'est qui a couché avec lui-même.
Voilà, peut-être qu'il a enfanté.
Qui s'est auto-enfanté.
Fécondé. Donc ces dieux-là, donc les Vannes sont plus liés au chamanisme, à la magie. Donc ce sont des dieux amoureux. Donc on a vu qu'ils pouvaient coucher entre frères et sœurs, ouais, l'un seul, ça ne les fera pas peur. Et donc c'est un culte qui était souvent assuré par des femmes et qui était lié aux orgies, à la prostitution sacrée, aux extases, ou aux rites sacrificiels. Bon, c'était un peu plus barbare, en fait, finalement. Et les Vannes seraient plus proches des hommes que les As, en fait. Les As,
d'accord,
sont plutôt les divinités plus parfaites, alors qu'eux sont plus proches des hommes. Et donc, mais avant qu'ils soient tous copains, il y a eu une grande guerre entre les As et les Vannes. Donc une guerre très longue, très violente, et un peu indécise, il n'y a pas eu vraiment de vainqueur. Et donc la raison de cette guerre serait la dispute d'une sorcière, Gulveig, que les As auraient d'ailleurs cherché à tuer à trois reprises, mais ils n'auraient jamais réussi. Donc ils étaient tous à la recherche de cette Gulveig. Mais ils n'ont jamais réussi, personne n'a jamais gagné. Donc ils ont fait la paix, comme on a vu, en crachant dans un pot là. Et ils ont fait un échange, en fait. Un échange entre les maisons. Donc les As ont donné aux Vannes les dieux Minir et Onir. Et les Vannes ont donné Njord, Freyr et Freya. Au As, en fait.
Comme un peu un mercato.
Voilà. Sauf qu'ils ont considéré les Vannes que c'était pas trop juste, en fait, parce qu'ils ont donné leurs trois divinités principales, quoi. Et les autres, ils ont donné Minir et Omir.
Les dieux tout nuls.
Omir. Alors, pas vraiment. Mais disons qu'en fait, ils ont ramené les deux. En fait, c'est Mimir ou Minir. Tiens, j'ai un doute. Bon. Minir. C'est celui qui a la source de Minir, en fait, c'est une eau, quand on la boit, on sait tout. Donc Minir, lui, sait absolument tout.
Oh, pas mal, quand même.
Voilà, il a le savoir absolu. Mais Onir, lui, il sait un peu rien, en fait, et finalement, il l'a envoyé comme si c'était un mec super fort et il est toujours conseillé par Minière. Donc les vannes, ils parlent avec lui, donc ils donnent plein d'idées et tout, ils sont là, ah, ils sont cool. Mais ils ont remarqué que dès que Minière n'est pas là, Onir est là, oh bah je sais pas, il est toujours indécis.
D'accord, en fait ils ont eu qu'un mec et pas deux.
On verra plus tard. Donc voilà, ils s'en sont rendus compte, ils se sont dit, ah ouais, c'est vraiment des cons en fait. Donc ils ont décapité Minière, celui qui sait tout, et ils ont envoyé sa tête à Odin. Mais Odin finalement, il a mis de l'oignon et des herbes sur la tête et du coup, il reste vivant. Sans corps en fait. Et donc Odin garde la tête de Minière dans un coin pour pouvoir lui parler. Voilà. Donc on a déjà ça, donc peut-être qu'on peut revenir sur les dieux chacun eux-mêmes. Donc on a Odin, donc, dont on a déjà parlé, donc, qui serait le premier, le plus ancien de tous les As, donc le dieu suprême, qui est donc le dieu des morts. C'est tous ceux qui tombent sur le champ de bataille deviennent ses fils adoptifs en fait. Donc lui, il sait tout également comme Minière parce que il a demandé à Minière de boire dans son eau et puis ça n'a pas été possible sauf si Odin a donné un de ses yeux. Ah, c'est pour ça que Odin est un dieu borgne en fait, parce que il a échangé son œil contre le savoir absolu. Donc il sait tout, donc c'est un grand voyant, un grand sorcier. Le dieu à la fois de la chasse sauvage et du commerce.
On peut noter que tous les borgnes ne sont pas omniscients non plus. On connaît beaucoup de borgnes un peu cons. Et du coup, ouais, ça marche pas à chaque fois, quoi.
Non, c'est sûr. Mais lui aussi, ce qui le caractérise, c'est la ruse, la fourberie et l'intelligence stratégique. Parce que c'est en effet le dieu de la victoire et de la victoire par tous les moyens, en fait. Tous les moyens sont bons pour parvenir à la victoire. Donc lui, c'est vraiment un dieu rusé, fourbe et un dieu cynique, en fait. Et physiquement, donc, il a une longue barbe, un manteau bleu, un seul œil. Et en fait, finalement, il n'était pas vraiment très apprécié par les Vikings.
Ah ouais?
Ouais, qui préférait beaucoup de Thor, en fait. Le dieu, oui, alors, pardon, sur Odin, c'est aussi un dieu corbeau. Enfin, le dieu au corbeau. Parce qu'il a deux corbeaux qui sont toujours avec lui. Donc, l'un qui s'appelle Huginn et l'autre Munimn. Et les deux qui s'appellent, en fait, Huginn la pensée et Unin la mémoire. Et donc ces deux corbeaux qui vont partout dans le monde et qui racontent à Odin tout ce qui s'est passé en fait. En ce cas, ils participent encore plus de son savoir. Mais le préféré, donc c'est pas Odin, même s'il est très fort, le préféré c'est Thor.
Parce qu'il a un gros marteau.
Parce qu'il a un gros marteau et parce qu'il fait des plaisanteries grossières, il a une longue barbe rousse, il a un gros appétit, donc il est plus sympathique vraiment. Et puis il termine oui, toutes les querelles par son coup de marteau. Donc,
Elena est très d'accord, elle, apparemment elle préfère Thor.
Ah bah oui, évidemment, on peut dire ouh là là.
Et alors,
je peux aller au PMU.
Thor, qu'est-ce qu'il a donc lui ouais, physiquement, donc je vous l'ai dit un peu, sa barbe rousse. Il a un char tiré par deux boucs.
Ça, c'est un peu
et donc on connaît le marteau, mais il y a en fait trois objets précieux qu'il a. Donc il y a son marteau, Mjolnir, qui veut dire le concasseur. Et donc il lui revient toujours dans sa main, donc il le lance, ça lui revient dans sa main. Et il peut aussi, enfin, ce qui lui permet d'être le dieu de la foudre aussi, parce qu'en fait le marteau qu'il lancerait et reviendrait sur lui serait en fait là une sorte de métaphore de l'éclair en fait.
Un genre de Zeus en fait.
Oui, parce qu'il contrôle le tonnerre aussi.
Ouais.
Et donc il a une ceinture de force, une ceinture qui en fait double sa force tout simplement. Et de grande importance aussi une paire de gants de fer qui lui permettent de manier son marteau en fait. Sans ces gants de fer, il pourrait pas manier le marteau.
Ah d'accord.
Donc il faut pas oublier les gants de fer aussi, c'est important. Mm-hmm. Donc c'est voilà également le dieu du tonnerre et donc il est extrêmement populaire. Il apparaît un peu dans de plein d'exploits. Notamment, on peut noter une anecdote un peu connue. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Thor qui va récupérer son marteau justement.
Ben non, hein.
Et volé par les géants. Donc en fait, il se réveille un matin et puis il n'y a plus son marteau à côté de lui. Donc il demande oui où il est passé et donc il sait que c'est peut-être un des géants qui l'a pris. Donc il va voir le géant, il lui dit ah ouais mais je veux mon marteau, rends-le-moi. Et l'autre, donc le géant lui dit ah ben moi je veux bien te rendre ton marteau, mais en échange je dois épouser Freya, parce que Freya donc c'est la déesse qu'un peu tout le monde veut épouser, un peu sensuelle et tout. Il dit donc je veux épouser Freya et donc lui donc il va voir Freya et puis il lui dit ouais bon il faudrait que tu épouses le géant là parce que moi je veux mon marteau. Donc là elle est dans une colère folle un peu, vraiment il y a la terre qui tremble, elle casse un super collier trop fort et tout, elle le brise donc elle veut pas du tout. Donc Donc ils sont un peu dans la merde, et là il y a Loki qui arrive, qui a une bonne idée pour une fois, et qui lui dit, ah mais
t'as qu'à Loki, vous l'avez pas encore introduit, ceci.
Non, non, mais ça va venir, mais là je raconte l'histoire.
D'accord, ok. Après.
Mais là on voit Loki sous un bonjour, ce qui est pas toujours le cas. Et donc ils disent, bah t'as qu'à te déguiser en femme, alors finalement, Odin se déguise en femme, et il dit à tout le monde, ah ouais, non mais on va me prendre pour une pédale en fait, et ce qui est très mal vu à cette époque-là. Et donc finalement, bon, il est convaincu par son frère, donc ils y vont. Et donc il lui pose des questions, mais sauf que Odin, bien sûr, Thor, bien sûr, il bouffe comme un ogre. Donc du coup il dit, oh, putain,
pas très féminin tout ça.
Et il y a Loki qui est sur là à côté qui dit, ah oui, mais bon, c'est parce qu'il a pas mangé, il était stressé, enfin elle était stressée. Donc Loki qui rattrape un peu toujours le coup. Et finalement, donc il comprend, enfin il arrive, il apporte son marteau pour bénir le mariage, mais finalement il prend le marteau et puis il tue tout le monde, quoi.
Yes.
Voilà, il défonce le géant. Mais alors, un truc
il retrouve sa virilité.
Quand il tue le géant, en fait, il lui balance le marteau et donc il explose un peu le géant. Sauf qu'il y a une patte, une jambe du géant qui se retrouve sur Odin, sur Thor, et il n'arrive plus à bouger, en fait, et personne n'arrive à enlever la jambe, ah, sauf oui. Un des fils de Thor qui vient juste de naître, donc à 3 jours, et qui lui arrive à réussir à porter la jambe, et donc en gros, son fils il sera trop fort.
Bah, lui c'est Hercule, quoi.
Voilà, un peu. Donc voilà, Thor est très fort, ses enfants aussi, donc tout le monde l'aime. Voilà. Mais donc si c'est un dieu violent, un dieu guerrier, c'est aussi un dieu protecteur et bienfaiteur, parce que donc après le tonnerre arrive souvent une pluie féconde et régénératrice, et donc son marteau donc, est aussi une arme, mais un instrument aussi de bénédiction et de protection. Voilà, donc c'est un dieu assez complet qui des fois supprime un peu les autres dans les histoires quand ils ont il y a un tiers par exemple qui vont dire bon non c'est Thor il est plus populaire, on va le mettre à la place quoi. Donc il a vraiment une énorme.
Qui dit ça? Qui dit on va mettre Thor à la place?
Popularité, ouais. Mais c'est les poètes des fois, ils mettent Thor à la place.
Ça se vendra mieux.
Voilà, ça vaut ça. Alors, ensuite, donc Thor, je vous ai parlé, Odin et le troisième des principaux As, donc ce serait Tyr, donc beaucoup moins connu, j'imagine que vous ne connaissez pas trop Tyr. Non. Donc lui, c'est le plus brave et le plus hardi de tous les dieux. Il est invoqué pendant les combats pour. Par les Vikings, parce que c'est lui qui décide, il a une grande partie de décision dans ce qui se passe en fait dans la victoire. Et donc c'est le plus brave et le plus donc hardi, le plus courageux de tous les dieux. Et il y a notamment une histoire avec un certain loup, le loup Fenrir.
Ouais, c'est connu ça, Fenrir.
Oui, voilà. Et en fait, Tyr a une grande importance. En fait, le loup Fenrir, il est devenu trop fort, en fait, donc ils veulent l'enchaîner, tous les dieux. Donc au début, ils prennent une grosse chaîne trop forte, machin. Et le loup, il fait, oh, vas-y, je m'en fous. Et puis après, il déchire les trucs. Ils essayent une autre encore trop forte, et rien à foutre, ils déchirent. Et après, ils prennent un petit ruban qui est fait avec des barbes de femmes, enfin que des choses qui n'existent pas.
Des barbes de femmes.
Oui, voilà, notamment des barbes de femmes, les racines d'une montagne, je sais pas quoi.
C'est vrai qu'ils avaient beaucoup d'imagination et qu'ils étaient très drôles, ces vikings.
C'est vrai qu'un peu bizarre. Et il commence à dire, ah ouais, non, mais là, ça me paraît un peu louche, votre truc. Il commence à se méfier, le Fenrir, là. Et il dit, bon, sinon, quelqu'un met son bras dans ma gueule, et puis comme ça, je suis sûr que si j'arrive pas à me détacher, au moins, j'aurai quelqu'un. Donc les dieux, là, ils sont là, bon, ouais, qui c'est qui veut gagner? Il y a que Tyr qui est le plus courageux, le plus brave, qui dit, bon, c'est bon, à la foutre, moi j'y vais. Il met son bras dedans, il l'attache, il est coincé, donc il se fait bouffer le bras par Fenrir. Donc il s'est un peu sacrifié pour tout le monde, donc c'est un dieu un peu gentil, quand même.
Et après, on n'en parle plus, quoi. Il s'est fait bouffer le bras et...
Bah, il a sauvé tout le monde. C'est un dieu, c'est le dieu courageux, quoi.
De l'abnégation.
Voilà, un peu. Et donc, ensuite, parmi les As, donc, il y a Frère, donc, qui est le fils de Njord et le frère de Freya. Et lui, il commande à la pluie, au soleil, à la végétation. Et on l'invoque pour la fécondité, la paix, la prospérité des biens. Donc lui, c'est plus un dieu de la fertilité, donc un dieu Van, plutôt, qui sont beaucoup moins guerriers. Et donc, petite anecdote, les animaux préférés de Freyr sont le porc et les talons.
C'est important de le préciser.
Et donc maintenant, donc pour plaire à Elena, nous allons parler de la femme, la déesse la plus importante, donc Freya.
Moi aussi, ça me plaît.
Donc, elle a un char tiré par des chats.
Voilà, bon, il a des boucles, l'autre il a des chats. Voilà.
Savoir lequel est le plus fort. Pour tirer un chat, parce qu'il faut qu'il soit fort.
Ouais, c'est des chats d'ouf.
Ouais, ça doit pas être très, très impressionnant, un chat.
Il leur entendait de la bière avant.
Et donc elle a un époux qui s'appelle Audre. Mais son époux n'est pas très important, mais ils s'aiment pas trop d'ailleurs, les deux. Mais bon, elle, par contre, c'est une déesse très importante parce qu'elle partage la moitié des morts avec Odin. Donc je vous ai dit, la moitié des les morts qui vont sur le champ de bataille et qui meurent, la moitié vont auprès d'Odin et l'autre auprès de Freya. Et ce serait elle qui aurait appris une science particulière de la magie qui s'appelle le Seidr. Et c'est elle qui aurait appris ça à Odin, donc elle est quand même assez forte. Et donc elle a un champ d'action très très vaste en fait. Donc c'est une fois à la fois déesse de la naissance, mais aussi de la mort, de l'amour, du combat, de la fécondité, de la magie noire. Donc...
ouais, j'avoue.
Et c'est elle qui détient la forme faucon. En fait, la forme faucon, c'est un pouvoir particulier de se transformer en faucon et qu'elle prête des fois à certains dieux. Il y a Loki qui a besoin, qui arrive, qui fait ah, tu me prêtes la forme faucon.
Ah, d'accord.
Donc il lui donne, tiens, et puis pouf, il prend la forme faucon et il s'envole. Un autre aspect très important de Freya, c'est son aspect lascif, enfin sa sensualité et son caractère un peu voluptueuse, qui parfois lui rend service, mais parfois aussi porte préjudice. Et donc la majorité des cultes qui lui sont rendus sont des cultes érotiques. Donc, voilà.
C'est-à-dire des cultes érotiques.
Les cultes érotiques, ben, genre, comme je vous évoquais,
la prostitution sacrée,
oui, les orgies, etc. Quoi.
Donc en fait, le mec, il prend plein de prostituées, il dit c'est sacré, c'est un culte à Freya, du coup c'est illégitimé. C'est cool.
Mais peut-être violer des femmes pendant la guerre, c'est rendre un culte à Freya.
C'est un bon alibi cette Freya. Pour faire des conneries.
Et finalement, donc l'autre dieu important quand même, c'est Loki. Et Loki, lui,
c'est mon préféré.
C'est le méchant, lui.
C'est un Van ou un As?
Lui, c'est un As.
D'accord.
Donc, il est le fils d'un dieu très peu connu, on sait pas trop qui s'appelle Lophée. Enfin, il est désigné comme le fils de Lophée, mais en même temps, il aurait une familiarité avec les géants, on sait pas trop, c'est un peu flou tout ça. Mais en tout cas, c'est un dieu très espiègle, farceur, qui est fondamentalement perverse en fait. C'est un peu l'incarnation de l'esprit du mal. Donc il adore tout ce qui est un peu bizarre, il est très fourbe, donc il cause tous les pires méfaits aux As en fait. Même si parfois, avec ses stratagèmes un peu bizarres, il arrive à les sauver.
Ouais, on voit là dans les histoires que vous avez raconté, il était cool quoi.
Ouais, voilà, mais c'est là où on le voit le plus cool. Sinon, c'est vraiment le méchant quoi.
C'est un Dionysos sadique.
C'est une autre figure de Satan, même certains disent.
D'accord.
Et en plus, il est souvent voleur, et ça, être voleur pour les Vikings, c'est vraiment très mal. Donc c'est vraiment la pierre des crapules quoi. Donc là je vous ai fait un...
Du coup, est-ce qu'on lui rend est-ce qu'on lui... Il y a
non.
des cultes
Il y a non. très peu de cultes de Loki, en fait, qui sont rendus.
À part les méchants, peut-être.
Peut-être, oui.
Ouais.
On va leur demander.
Donc après ce petit panorama, donc des dieux, je vais vous expliquer comment, selon les Vikings, le monde a été créé, finalement, parce que c'est un peu à ça aussi que ça sert, une mythologie. Ça va avec une sorte de cosmogonie qui nous explique la naissance du monde. Et là aussi, c'est assez drôle, en fait, parce que c'est assez violent. Donc, à l'origine, comme toujours, il y avait le chaos. Hein. Donc, c'était un vide béant qui s'appelait Ginnungagap.
Là, quand même, je tiens à saluer la performance de Bertrand Fibien qui lit des noms complètement imprononçables depuis le début de l'émission.
En plus, il est marrant celui-là, quand même, Ginnungagap. Et donc, au nord d'une Ginnungagap, il y avait de la glace et du givre, et au sud, du feu, en fait. Donc, c'était un espèce de chaos.
Ah oui, c'est du chaos, mais pas néant.
Voilà, c'est un peu compliqué, ouais. Et donc, c'est finalement c'est la rencontre du feu et de la glace. Qui a créé la vie. Donc, il est écrit dans un récit qui se nomme le Gylfaginning. Il explique ainsi la naissance de la Terre. Alors le courant brûlant rencontra le givre en sorte que cela fondit et dégoûta, et de ces gouttes d'eau froide jaillit la vie par la force qui provoquait la chaleur brûlante. Et cela devint une figure humaine, et il s'appela Ymir. Mais les turses du givre l'appellent Orgelmir, et de là descendent la race des turses du givre. Donc déjà les Turcs, c'est les géants. En fait, quand on
dit d'accord, Turcs, c'est les géants. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ouais.
Donc on a un espèce de géant qui s'appelle Ymir. Et, mais qui a été créé un peu comme ça, du chaud et du froid mélangé. Donc ça fait une goutte d'eau, pouf. On a Ymir. Ymir qui est le père de tous les géants du Givre. Mais le problème, c'est que Ymir est fondamentalement méchant, lui. C'est un connard. Et les Turcs aussi. Et donc c'est en fait, en plus, c'est un peu bizarre, c'est Ymir quand il transpire, c'est là que naissent les créatures, en fait. C'est une goutte de sueur que naissent les géants du Givre.
Ah. En fait.
Mais donc il doit bien se nourrir, ce petit gars, enfin ce grand géant. Et en fait, de la fonte des glaces, il y a d'abord Ymir, mais aussi une vache qui s'appelle Odumla.
Marguerite.
Donc qui nourrit Ymir de son lait. Il y a vraiment une fontaine des fontaines de lait qui jaillissent de ses pieds tout le temps. Donc c'est la fertilité incarnée. Et elle aussi, elle doit se nourrir. Pourtant, alors elle lèche des pierres recouvertes de givre. Et les premiers jours, en léchant la pierre, il y a un homme en fait qui sort d'une pierre. Elle le lèche comme ça, et puis il y a un homme qui sort. Et donc c'est un homme grand, beau et fort, et qui s'appelle Buri. Non, il n'est pas connu. Donc ce Buri a un fils qui s'appelle Bur, et lui-même a trois fils qui s'appellent Odin, Vili et Vé. Donc on a enfin déjà Odin, le premier des As, qui est apparu. Et donc vu que Ymir est méchant, donc Ymir ce géant, il faut bien le tuer finalement. Et bien sûr c'est Odin, Vili et Vé qui se chargent de tuer Ymir. Mais quand il le tue en fait, il y a tellement de sang partout que tous les géants du Givre se noient dans le sang d'Ymir. Ou presque, il y en a un ou deux qui survivent.
Les mecs, comment ils arrivent à associer des trucs complètement farfelus avec des trucs très pratiques, quoi. Ouais, ben oui, forcément, si la terre est recouverte de sang, ben tu te noies, mec.
Et les géants se noient, mais pas Odin et ses frères. Alors, ils sont plus petits que les géants, pourtant.
Voilà, mais ça, on sait pas trop.
Ils ont un radeau, mec.
Ils volent, enfin. Oui, bon, c'est pas très. Donc voilà, et alors après, bien sûr, il y a la création du monde, et ça c'est assez rigolo, parce que donc je vais vous lire un peu cette description de la création du monde. Donc les fils de Bur tuèrent le géant Ymir. Ils prirent Ymir et le placèrent au milieu du Gigungagap, et firent de lui la terre de son sang, la mer et les lacs. La terre fut faite de sa chair, les montagnes de ses os, les abats de pierre et les cailloux de ses dents, et les condyles qui s'étaient brisés. Du sang qui coulait de sa blessure et ruisselait librement, ils firent la mer quand ils formèrent la terre et placèrent cette mer en rond tout autour de la terre. Dans l'ensemble, cela n'a pas dû être chose facile à entreprendre. oui, c'est ce qui est écrit dans le texte.
C'est vrai.
Ils prirent aussi son crâne et en firent le ciel, le posèrent au-dessus de la terre, sur quatre coins, et sous chaque coin, ils placèrent un nain. Ceci s'appelle Est, Ouest, Nord et Sud. Voilà, ils prirent aussi sa cervelle et la jetèrent en l'air et ils en firent les nuages.
Et oui.
Voilà. Donc en gros, la terre, le ciel, la terre, c'est le cadavre d'Ymir qui est là dans le Gigungagap et qui a formé la terre et voilà, etc. Et donc ensuite de ça, il a fallu créer les hommes. Et en fait, donc ces trois dieux, là, Odin, Vili et Vé, ils ont trouvé deux souches d'arbres. Et ils ont fasciné les hommes à partir d'elles, en fait. Donc le premier, donc Odin, donne souffle et vie aux êtres humains, enfin aux bâtons, là. Les deuxièmes, conscience et mouvement. Et le troisième, parole, oui et vue. Et donc c'est comme ça, c'est à trois qu'ils ont créé la race des hommes. Donc il y a un peu ce monde où il se partagent les géants d'un côté, parce que tous les géants ne sont pas morts. Il y a des nains, on a vu, il y a aussi donc les dieux, les vannes, les as, les hommes maintenant, il y a les alphes aussi.
Les alphes.
Les alphes, ou bon, c'est nos elfes quoi. Mais on sait très peu de choses sur eux finalement. Et donc pour rassembler tout ça, il faut un principe fondateur, et donc un rassembleur, et c'est un grand arbre qui s'appelle Yggdrasil. Donc cet grand arbre, il est à la fois l'axe et le support des mondes. Et donc c'est lui qui garde le monde et le soutient. C'est un peu une figure du destin universel, finalement. Mmh. Et on nous en parle en ces termes. C'est une création aussi intellectuelle que physique, aussi réelle que symbolique, aussi vivante que surnaturelle. Il est la beauté, l'énergie inlassable et la science secrète, poésie, dynamisme, magie. Donc ce serait ce grand Yggdrasil, ce grand arbre qui rassemblait tout le monde dans... et qui lui apporterait sa cohérence finalement. Parce qu'il a ses branches et ses racines un peu partout, et il rassemble tout le monde.
Ok.
Voilà. Donc ça c'est une première partie, donc juste pour dresser le tableau, et après en fait... une des particularités, c'est qu'il se passe quelque chose.
Et oui, c'est ça. Et c'est ça que vous allez nous expliquer après cette petite pause musicale, hein, l'arrivée du mal finalement. Enfin, pas vraiment du mal, mais parce qu'il y a déjà la Terre, voilà, la Terre a été créée par un mœurs, enfin l'univers. Oui. Donc c'est déjà un peu foireux. Mais
voilà, mais les dieux vont se parjurer.
Et voilà. Oh, et c'est ça qu'on va écouter. Après, voilà, j'étais obligé quand même de mettre un son de Mano, hein, parce que avec cette, voilà, les Celtes, c'est pas les Nordiques, c'est pas les Scandinaves, mais bon, voilà, si on fait un petit amalgame, ça passe. Et mais bon, ça reste dans le délire, quoi.
Voici l'histoire d'un dieu avide de pouvoir, qui après avoir semé le trouble sur Terre, se fit enfermer par l'ordre sacré des druides de la tribu de Dana. Mais la prophétie raconte qu'il ressurgirait à l'aube du deuxième millénaire. Enfermé dans les catacombes, son heure approche.
Hold it on the MIC. Hold it on the MIC.
Je suis le noir, le sombre, collé à toi ton ombre. Je suis l'aboutissement de ta vie, la fin, le trou de ta tombe. Je suis ton pire ennemi, le cauchemar de ta vie, le temps qui passe et qui sourit devant ton agonie. En fait, le but de ma quête est de créer des tempêtes dans les profondeurs de ton être. Je suis ton maître, le seul prophète. Viens lire dans mes tablettes, tu seras mon adepte. Alors accepte devant moi, baisse ta tête. Je suis un dieu qui dort dans les catacombes. Mon rêve sera furieux, tu verras comme je suis immonde. Maintenant perds plus ton temps, va mon enfant, du pouvoir des ombres, rejoins les rangs.
Un mauvais dieu dort dans les catacombes, encore une œuvre que ton pouvoir pour saisir le monde. Un mauvais dieu dort dans les catacombes, les troubles avaient enfermé dans le royaume des ombres. Un mauvais dieu dort dans les catacombes, encore une œuvre que ton pouvoir pour saisir le monde. Un mauvais dieu dort dans les catacombes, les troubles avaient enfermé dans le royaume des ombres.
Je suis le mal, l'impur, le maître de la luxure. L'avarice et le sexe sont les piliers de ma culture. Alors sois sûr, je serai vraiment dur, car telle est ma nature, m'opposer de toute ma haine contre les âmes pures, les hommes, les femmes, les enfants, à tous les opposants du pouvoir des hommes qui s'abat sur la terre maintenant. Car oui, comme dit la prophétie, les tablettes, les écrits, ma lourde peine s'achève cette nuit. Ça y est, c'en est fini d'attendre. Les siècles ont passé, je n'ai pas su apprendre à bien me contrôler. Ma haine est comblée et je suis énervé. Les humains vont comprendre la colère d'un dieu du passé.
Un mauvais dieu dort dans les catacombes, encore une œuvre de ton pouvoir pour saisir le monde. Un mauvais dieu dort dans les catacombes, les troubles avaient enfermé dans le royaume des ombres. Un mauvais dieu dort dans les catacombes, encore une œuvre de ton pouvoir pour saisir le monde. Un mauvais dieu dort dans les catacombes, les troubles avaient enfermé dans le royaume des ombres.
Je suis enfermé, que l'on m'a condamné à errer comme damné en enfer, à quelques pieds sous terre, sans aucune lumière, dans le royaume des ombres où règne Lucifer. Voilà, ma haine est si forte contre les hommes de foi qui ont osé claquer les portes fatales du mal, inscrites sur une dalle, les mots magiques des druides qui m'ont servi de pierre tombale. Mais maintenant j'arrive et le monde dérive. Tu ne pourras pas survivre car de sang je m'enivre. La terreur maintenant t'escorte, le royaume de la peur qui ouvre ses portes.
Un mauvais dieu dort dans les catacombes, encore une heure ou deux pour pouvoir préciser le monde. Un mauvais dieu dort dans les catacombes, les trucs l'avaient enfermé dans le royaume des ombres.
Un mauvais dieu
dort dans les catacombes, encore une heure ou deux
pour
saisir le monde.
le mauvais dieu, oui le mauvais dieu, sur Radio Canus, en 2.2, la plus rebelle des radios, avec aujourd'hui la fin du monde, Ragnarok, expliqué par Bertrand Fibien.
Oui, alors, d'ailleurs peut-être avant d'évoquer Ragnarok, il faudrait peut-être parler du paradis.
Paradis des Vikings.
Paradis des Vikings, oui, parce qu'on n'a pas encore parlé finalement. Le paradis des Vikings s'appelle le Valhalla. Valhalla, c'est plus simple. Et donc, c'est là où Odin, finalement, recueille tous les guerriers qui ont été tués au combat. Et donc déjà, premier point, ce paradis nordique est accessible qu'aux guerriers. Parce que c'est que au combat, après avoir s'être battu, qu'ils deviennent des NR, genre. C'est donc c'est les guerriers qui sont tombés, qui se nomment comme ça. Et donc la question, donc tout est là-bas en abondance, et donc il y a certains dialogues dans les trucs où c'est quelqu'un qui pose une question, ah mais comment ça marche le paradis, ah mais c'est comment le Valhalla, gna. Et il demande, ah mais qu'est-ce qu'il mange, donc il dit, ah oui, il y a un sanglier qui donne à manger à tout le monde et tout.
Cool.
Et qui, à chaque fois qu'on mange un bout, il y a un autre bout qui revient, donc c'est le paradis, enfin c'est le...
Ouais, c'est cool. L'abondance.
Et au bout d'un moment, il demande, il fait, ah oui, mais ils boivent quoi et tout? Est-ce qu'il y a de l'eau en abondance et tout? Et l'autre lui dit, non, mais enfin, c'est Odin, il accueille des gens, il va pas les accueillir avec de l'eau, il les accueille avec de la bière.
Ah ben.
Et de l'hydromel, il y en a partout. Et il dit, ah, mais Odin aussi, il mange le sanglier, et puis il fait, ah non, Odin, lui, il a pas besoin de manger. Le vin lui suffit comme nourriture. Donc Dieu sait, enfin, Odin sait que manger c'est tricher.
C'est un peu Bertrand Fibien, Odin, finalement.
Donc voilà, il se sustente de vin. Et au paradis, qu'est-ce qu'ils font? Donc ils disent oui, donc c'est vraiment décrit comme ça. C'est genre, bon, quand ils ont fini de manger et de boire, en fait, ils vont se battre. Et ils se battent pour s'entraîner, ils arrêtent de se battre que pour aller manger et pour aller boire. Donc voilà, ça reste un paradis... assez particulier, donc parce qu'apparemment, ouais, il n'y a que des hommes qui font que se battre, boire et manger. Donc, bon, c'est bien si on aime ça. Mais hein. Voilà. Et donc, en fait, ils se battent pourquoi? Pour se préparer à Ragnarok.
Et oui, le retour voilà. Fatal.
Et donc, qu'est-ce qui explique Ragnarok? Eh bien, on va y venir. C'est que donc les dieux étaient dans un âge d'or, donc tout allait bien, jusqu'au jour où ils décident de construire une muraille autour d'Asgard, et que là, il se passe quelque chose qui vient un peu tout remettre en question. Donc pour se protéger des géants, en fait, ils bâtissent une muraille et ils disent qu'ils ont besoin d'aide, en fait. Donc là, il y a un maître d'œuvre qui vient les aider. Et il dit, moi, je veux bien construire votre mur et tout, je le fais tout seul, machin. Mais en échange, je veux épouser Freya.
Et les mecs, ils sont monomaniaques, quoi. Il y a un truc dans leur vie, c'est...
Mais il veut pas que ça, il veut aussi la lune et le soleil.
Ah.
Oui, il est un peu poète aussi.
Et ça, apparemment, c'est une idée de Loki, de dire Loki qui fait « Oui, ne vous inquiétez pas, on lui dit ça, de toute façon. » Ils lui disent « Mais de toute façon, on te fait ça que si t'arrives à le faire avant le printemps. » Et sauf que deux jours avant le printemps, il va y arriver, quoi, en fait. Et donc là, les dieux, ils se réunissent, ils se disent « Merde, qu'est-ce qu'on fout ? Bon, Loki, c'était ton idée, tu te démerdes, tu l'empêches de construire le mur. » Et donc lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il affole les chevaux du maître d'œuvre, et donc du coup, lui, il passe son temps à leur courir après, et donc il n'arrive pas à finir à temps.
Ah.
Et alors là, il s'énerve complètement, et là, il tombe dans une colère de géant, et donc là, il découvre qu'en fait, c'est un géant des montagnes. Et donc les dieux disent, ah, mais c'est un géant, c'est bon, on n'a pas besoin de le rémunérer, on peut rompre notre promesse, parce que c'est un géant des montagnes, on l'envoie chier, donc Thor arrive, un coup de marteau, pouf, il dégage. Mais même si c'est un géant des montagnes, il y a eu rupture de contrat, donc les dieux se sont parjurés. Donc l'âge d'or qu'il y avait s'achève avec cette félonie des dieux. Donc ils ont manqué à leur parole, ils ont bafoué leur honneur. Et alors la consommation du destin des puissances va pouvoir se déchaîner. Donc cette consommation du destin des puissances,
ouais, ça veut dire quoi?
C'est Ragnarok, en fait. C'est ce que ça veut dire. C'est le destin des gens des puissants. En gros, c'est leur destin, c'est de finir dans une lutte contre le mal acharné. Mais avant, il se passe quand même quelque chose qui la fout mal un peu. C'est le début de l'horreur qui commence, à savoir la mort de Baldr. Donc je vous ai pas parlé de Baldr.
Et non.
C'était exprès. J'en parle maintenant. Baldr, en fait, c'est donc le fils de Odin, le frère de Thor. Et lui, c'est le dieu de la lumière, le dieu de la perfection, de la pureté, de la miséricorde. Il est vraiment à part par rapport à tous les autres dieux, parce que c'est vraiment un dieu bon, quoi.
Gentil.
Donc voilà. Et donc sa mort a une portée donc fortement symbolique et morale. Donc le monde a été corrompu et déshonoré. donc par les dieux qui se sont parjurés, et ainsi donc les principes de bien, de bonté et de beauté ne sont plus viables. Et tout meurt. Donc, comment ça se passe tout ça ? Baldr un jour rêve qu'il va mourir. Alors il dit à sa mère, donc Frigg, il va voir sa mère, il lui dit « Bon, bah, j'ai rêvé que j'allais mourir ». Et donc elle, Frigg, donc la femme d'Odin, elle fait porter un serment à toutes les choses sur Terre que ils ne s'attaqueront pas à Baldr et ils ne pourront rien lui faire.
D'accord.
Donc ainsi, toutes les plantes, tous les cailloux, le feu, l'eau, la glace, etc., plus rien ne lui fait rien en fait. Et donc là, tous les dieux, ils s'amusent à lancer des flèches et des lances sur Baldr. Là, ils voient que ça les fait rien, donc ils rigolent et tout ça pendant longtemps.
Ils ont un humour bizarre.
Ouais, voilà. Et là, il y a Loki qui passe par là et qui est un peu jaloux quand même. Et puis, donc il se déguise en femme, encore. Et il va voir Frigg. Et donc Frigg, elle lui dit « Oui, bah, j'ai fait prêter serment à toute chose et tout. » Et donc Loki, déguisé en femme, qui fait « Ah bon, mais vraiment toute chose ?» Elle fait « Ah oh, bah non, il y a un petit Guy là-bas, il était trop jeune, alors je me suis dit que c'était pas la peine de... »
Un Guy ?
Oui, du Guy.
Genre du Guy, ouais, du Guy. La feuille, quoi.
Ouais, enfin, le machin, l'arbre, quoi. Mmh. La branche. Et alors Loki, il fait « Ah bah c'est bon, il va chercher donc le petit Guy, là. » Et il le prend, il en fait une flèche, et il dit à Odre, qui est un dieu aveugle, de tirer sur Baldr. Et donc le dieu, il le fait, en fait, comme ça, et en fait, Baldr meurt.
Oh putain.
Tué à cause de Loki. Donc là, tous les dieux sont absolument ravagés.
Sa mère, elle doit être
dégueu. Ouais, ils sont tous complètement nègres. Et le truc, en plus, c'est que Odin savait tout, donc il le savait déjà, que Baldr allait mourir, mais il n'avait pas pu l'empêcher. Et il y aurait des mots secrets que ce serait dit, enfin que Baldr aurait dit à l'oreille d'Odin, mais que personne ne sait ce que c'est. Mystère reste absolu.
Ah ouais.
Et oui. C'est la clé de la vérité.
Ah, j'ai envie de savoir maintenant.
Mais bon, ils savent quand même que c'est Loki qui a fait ça, donc ils vont le punir parce que bon, ça suffit, ouais. Ce petit con là qui arrête pas de faire des conneries. Donc là, ils l'attrapent et ils prennent ses fils, donc Vali et Narfi. Ils transforment Vali en loup et ils le font dévorer Narfi.
Voilà,
donc ils vont s'entretuer les petits gosses. Voilà, donc c'est déjà bien.
Ça commence pas.
Et puis, ils sont contents d'en rester là quand même. Ils prennent les intestins de Narfi et ils attachent le Loki avec autour d'un caillou. Et donc, c'est sa punition quand même. Et puis, oui, aussi, ils mettent un serpent au-dessus. Enfin, Freya crée un serpent au-dessus de sa tête qui, en fait, il mord la tête et coule son venin tout le temps sur lui.
Ouf. Supplice de tantale.
Donc voilà, il est pas le dieu, mais bon, il est un peu cherché aussi.
Ouais.
Surtout qu'il y a, on voit un texte de Loki où il dit à Frigg justement, il fait ouais, enfin rappelle-toi, c'est à cause de moi que tu vois plus jamais ton fils et tout. Genre il la nargue d'avoir tué son fils, donc c'est ouais, c'est vraiment.
Mais qui a pas de limite quoi.
Ouais, ouais.
Et alors suite à ça quand même, vu que la lumière, le dieu de la lumière s'est effondré, les ténèbres se réveillent et c'est Ragnarok qui arrive. Et donc comment arrive Ragnarok ? Il y a un signe précurseur, c'est un grand hiver qui s'installe où il fait très froid, où il fait nuit tout le temps, et un hiver qui s'installe pendant plusieurs saisons, plusieurs années, et qui accompagne le réveil de l'armée des morts.
Ça fait penser.
Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, ce long hiver qui arrive et les morts qui se lèvent.
Ah, je crois que la réponse est sonore.
Exactement.
Ils n'ont rien inventé ces garçons finalement.
Non, et d'ailleurs, oui, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore dit, mais cette étape poétique et toute cette mythologie a fortement influencé donc, un peu tout ce qui est de l'ordre de l'heroic fantasy. Mais oui, surtout donc, Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux aussi, énormément. Il y a Tolkien qui a écrit un livre qui s'appelle Siegfried et qui tient directement référence à l'étape poétique. Donc, la nuit arrive, etc. Et des loups avalent le soleil, la lune et les étoiles. Donc, plus rien. Et alors là, tous les méchants se lèvent, arrivent, parce qu'il y a un grand tremblement de terre, en fait, et toutes les chaînes se brisent. Donc on a évoqué Loki, qui était attaché avec les intestins, donc se brise. Fenrir, tout à l'heure, le gros loup qui était enchaîné, il s'échappe aussi. Et il y a aussi le serpent de Midgard, dont je n'ai pas entendu parler, donc qui s'appelle aussi, dont je n'ai pas encore parlé, qui s'appelle Jormungand, qui lui en fait est un serpent géant qui a été jeté par Thor dans l'eau et qui est devenu tellement géant qu'en fait il fait le tour de Midgard et il se mord la queue en fait. Et donc là en fait il se retourne et il se déchaîne et donc les derniers géants du givre, enfin les géants du givre guidés par Trimr, se lancent à l'attaque, ainsi que les géants du feu avec Surtre et donc tous les fils de Muspel, comme ils s'appellent, et les guerriers de Hel, qui sont donc les morts, Hel étant la divinité des enfers. Oui. Donc les guerriers de l'enfer.
Tous les méchants, ils sont réunis, quoi.
Tous les méchants sont réunis, les guerriers de l'enfer, voilà, avec à leur tête Loki. Sont menés, voilà. Donc là, les dieux, ils se réunissent, ils disent, c'est le bordel, qu'est-ce qu'on fait? Donc ils se disent, on va se foutre sur la gueule, quoi. Il n'y a plus que ça à faire. Donc c'est le combat, ils sont trop contents. Ragnarok est arrivé, on va pouvoir faire la baston. Donc là, tous les Einar Jar.
Les mecs morts qui sont.
Voilà, les mecs morts avec les Valkyries et tous ceux qui s'entraînent avec Odin au combat, ils sortent, tous les dieux commencent à faire la guerre. Et donc là, il y a une série de combats qui s'enchaînent. Et qui sont pas forcément très joyeux. Parce que Odin, donc, se bat contre Fenrir, le loup géant, trop fort, et se fait dévorer. Donc, il meurt. Mais heureusement, Vidar arrive, un nouveau dieu, et tue Fenrir. Thor, lui, se bat contre le serpent de Midgard,
Jormungand.
Et il s'entretue, donc, Thor le tue, mais le serpent de Midgard a craché du venin sur lui, et il meurt. Frère, se bat contre Surtre, le dieu, le géant du feu, et se fait tuer. Tyr, lui, se bat contre un chien géant qui s'appelle Garmr, et il s'entretue.
Ouais, c'est des one-one, quoi. On est un peu comme dans One Piece. Il y a la grosse guerre, et il y a les petits combats entre personnages intéressants.
Et il y a aussi Loki contre Heimdall, et qui s'entretue aussi. Donc, en fait, finalement, tout le monde est mort. Sauf Surtre, le géant du feu, mais qui, lui, fait...
Donc c'est un méchant si c'est un géant.
Oui,
c'est un géant. Les méchants ont gagné.
Donc, il est écrit, Surtre projette du feu sur la terre et consomme tous les mondes.
Oui, d'accord. Oh.
Donc voilà, tout le monde est mort, tout le monde a cramé. Mais c'est quand même pas la fin de tout. Car, comme souvent, en fait...
Elle est prise dans le truc, elle est un peu plus...
Et oui, mais souvent, les apocalypses sont suivis d'une renaissance. Et donc, à l'ombre d'Yggdrasil, donc le fameux arbre.
L'arbre, genre, oui, dont vous avez parlé.
Deux êtres humains ont survécu, qui s'appellent Lif et Lifthrasir, ce qui veut dire vie et vivace. Et donc ils vont pouvoir repeupler la Terre, et puis en plus, donc on a une phrase, donc c'est un peu tout qui revient un peu énigmatiquement, donc c'est peut-être l'arbre Yggdrasil, donc à son oui. Ombre, tout le monde renaît. Et donc on a la phrase, le temps va ramener l'ordre des anciens jours. Donc le temps, c'est comme si le temps de lui-même, en fait, décidait de faire revenir les gens, mais il ne fait que revenir que le soleil, Baldr, et seuls les bons dieux reviennent finalement sur Terre, et donc tout le monde va bien.
Et pardonnez-moi Bertrand, il y a juste une logique chronologique que j'ai pas bien compris. J'ai pas vraiment compris quand Ragnarok commençait exactement, parce que vous avez commencé par parler de la rupture du contrat avec ce géant là, puis après vous avez parlé des conneries de Loki, et qui ça commence quand en fait exactement? Quel est le rapport? Est-ce qu'il y a un rapport direct entre la rupture du contrat avec le géant et Ragnarok?
Oui. Bah c'est à partir de cette rupture du contrat, donc l'âge d'or est terminé. Donc là, il commence à se passer plein d'événements qui annoncent finalement Ragnarok. Donc la mort de Baldr, par exemple. Le fait que Loki le tue.
Ok, parce que Loki, c'est parce qu'il y a eu cette rupture du contrat que Loki a tué. Enfin, pas parce que, mais ça joue.
Oui, mais oui, et puis symboliquement ça, ouais. Parlant aussi,
c'est le signe que tout va commencer à. Voilà, de travers,
si Loki commence à prendre les devants, à franchir le pas de tuer un autre dieu, c'est que le mal a pris le pas en fait dessus. Et donc du coup, et ça mène ça au Ragnarok, parce que non seulement parce que une fois que le dieu de la lumière, etc., est mort. C'est l'équilibre est rompu, etc.
Et c'est assez marrant d'ailleurs cette importance du contrat, parce que ça rappelle le refus un peu. Enfin, il y a de l'ordre, quoi. C'est des barbares d'une certaine manière, mais qui ont un certain respect de la règle. Il y a un refus de l'hubris, de l'excès et du contrat. Et il y a une importance du contrat. Ouais. Bon, d'accord. Voilà. Ouais. Merci.
Donc voilà pour fêter cette victoire des gentils de l'arbre de Yggdrasil. Grâce à Yggdrasil. On va s'écouter un petit son un peu qui nous sort de ce pays froid, de ces pays, de ces contrées hostiles. Un son qu'a fait Elena, je vais laisser le soin de le présenter.
C'est juste un petit morceau qui s'appelle Darling, une petite berceuse, comme ça, histoire de bien s'apaiser après toutes ces tensions. Là,
De calmer l'atmosphère.
Close and so far, to clean your pain.
C'est ce qu'a dit Elena, on est d'accord.
Ouais, c'est bien ce que j'ai dit.
Et Don't Forget, c'est un peu aussi le thème du jour, hein. N'oubliez pas la mémoire du passé, hein, c'est ça, la mémoire, ce que nous ont appris nos ancêtres vikings, oui, nos ancêtres humains.
Oui.
La mémoire de l'humanité repose ici, à Mountain Was a Thug, et elle est admirablement analysée. Décortiqué par le sage Bertrand Amphibien, qui nous a voilà raconté magistralement Ragnarok, hein, la cosmogonie nordique suivie de la bataille entre un peu le bien et le mal. Et d'ailleurs, le bien et le mal, je viens de noter ça, qui naissent d'une même famille. Ce sont les As, non? Puisque Loki est du coup même de la même famille que Odin, qui sont les As. En fait, c'est pas deux familles qui s'opposent, c'est une famille dans laquelle naît la, voilà, naît le trouble, et c'est ça qui va causer cette grande guerre qui va mener à Ragnarok.
L'ascendance de Loki est un peu trouble et on sait pas trop qui est son père. Il y a un rapport avec des géants. Il y a un géant qui s'appellerait le géant du givre Loki, ou enfin. Il y a une petite ambiguïté envers ce personnage de Loki qui serait peut-être en fait un géant. Donc du coup, ce serait quand même... qui serait un peu un entre-deux finalement. À la fois géant et à la fois As. Et donc qui créerait donc le... Ouais,
d'accord.
La distorsion qui fait que l'équilibre...
Le déséquilibre.
Oui.
D'accord, d'accord. Et donc maintenant, on va passer, cher Bertrand Amphibien, à la thuguitude de Loki. Hein, ce mot aussi employé dans cette émission.
Oui, et pas que Loki d'ailleurs.
Ah, d'ailleurs, Loki quand même, c'est mon préféré.
Oui. Ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, peut-être encore plus remarquable, donc un certain dialogue entre Thor et Odin, donc qui s'appelle le lait de Arbrardre. Et donc Arbrardre, c'est ici en fait, ça veut dire barbe grise, mais c'est un des surnoms d'Odin. Parce que Odin avait énormément de surnoms, donc la moitié du temps c'est d'Odin qu'on parle, mais on ne sait même pas. Et donc voilà, et donc en fait cette histoire, donc c'est Thor qui cherche à traverser un fleuve.
Thor qui est son fils, hein, si j'ai bien compris. Oui.
Voilà, mais lui là dans cette histoire il le reconnaît pas en fait, il reconnaît pas son père parce qu'il est caché, il est déguisé en passeur, et donc il lui dit, il y a Thor qui arrive et qui fait ah j'aurais besoin de passer de l'autre côté, tu me ramènes avec ton bateau là. Et sauf que l'autre il veut pas parce qu'Odin il a décidé d'être chiant, donc il s'est dit ah ben non je vais lui dire non. Et puis on va commencer à s'insulter un peu genre. Donc il commence à parler en disant « Ah ouais, moi je suis trop fort, j'ai fait ça et tout, et toi qu'est-ce que tu faisais en ce moment, pendant ce temps-là » Et il dit « Ah mais moi, j'ai fait ça, j'ai tué tant de femmes, etc. etc. » Donc là, il y a plein de...
C'est un battle un peu.
Oui, voilà, c'est carrément, oui, ça, c'est un battle, oui, voilà, ils sont là, ils font de l'ego triple. Moi, je suis bien. Ton fort, et toi, qu'est-ce que tu faisais en ce temps-là? Donc, par exemple, on a Thor dit, voici que tu veux mentionner mes démêlés avec Hrungnir. Ces géants présomptueux dont la tête était de pierre, pourtant je l'abattis et je lui fis mordre la poussière. Que faisais-tu pendant ce temps-là, Harwardr? Et lui répond, j'étais chez Flogiard, 5 hivers pleins dans l'île qui s'appelle Holgrain. Là, nous eûmes à combattre et des guerriers à battre, diverses choses à tenter et des filles à goûter. Et Thor, ah, comment vos femmes se comportent-elles avec vous, etc. Donc en gros, il y avait des femmes, on a battu et tout. j'ai pas arrêté de niquer, je suis trop fort. Et toi, par contre, t'es trop nul, etc. Enfin, c'est vraiment, oui, voilà, un clash, quoi. Donc celui qui essaye d'être le plus fort.
Booba contre la fouine.
Voilà, sauf que c'est Thor contre nous. Et oui, oui. Et donc on a pareil avec les punchlines de Loki, donc qui s'appellent véritablement les sarcasmes de Loki. Ouais. Et c'est Loki qui veut boire en fait le fameux hydromel poétique dont je vous ai parlé. Et en fait, avant de le boire, il y a tous les dieux réunis et il commence à tous les attaquer pour tous les insulter. Donc c'est là, donc je vous parlais tout à l'heure, il va voir Frigg, il lui dit, oh tais-toi Frigg, de toute façon rappelle-toi que c'est moi qui ai tué ton fils. Il arrête pas de dire tais-toi à tout le monde, à chaque fois c'est, oh toi tais-toi, t'as couché avec ton frère, ah toi tais-toi, t'as fait ci, t'as fait ça. Enfin oui, voilà, il arrête pas. donc oui, voilà, par les petites piques comme ça, bien cinglantes. Jusqu'à ce que Thor arrive et puis il commence à faire bon, j'ai commencé à faire chier tous les dieux et tout, je les ai bien insultés, mais toi je sais que si jamais je fais ça, tu vas me frapper. Alors, donc voilà, donc il a un peu peur et il s'en va. Mais il y a quand même, donc encore, on voit chez eux cette volonté thug de vouloir faire des clashs et de vouloir toujours insulter les autres.
Mais vu l'importance de la réputation dans leur système, on peut comprendre ça.
Oui, voilà, oui, carrément.
Plus je me différencie des autres, plus j'ai de chances de rester dans l'histoire.
Et puis, je montre que j'ai de l'honneur et que qu'on doit se souvenir de moi après ma mort.
Oui.
Alors que les autres, justement, essayent de faire le contraire, dans le cas de Loki et Thor. donc voilà pour ce qui est surtout de la thuguitude des dieux dans ce récit. Et donc après, peut-être on va passer à un autre aspect. Peut-être plus du proche de la révolution. Est-ce qu'en effet, il n'y a pas un versant révolutionnaire dans ces récits?
Bien sûr que si, on est sûr qu'il y en a un. Vous connaissez. Vous nous pondrez la révolution, même, je sais pas, dans une pub pour le Nesquik.
Elle est partout.
Oui, oui, elle est partout, et notamment dans une histoire qui s'appelle La chanson de Grotti.
Ah, pourtant, c'est pas gagné dans ce titre, hein, de la Révolution, quand même, chanson de Grotti.
C'est vrai, donc la chanson de Grotti, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une histoire, l'histoire du roi Frodi. Alors le roi Frodi, en fait, il avait il avait une meule géante qui s'appelait Grotti. Grotti, c'est une meule géante, donc il pouvait tout moudre, en fait. Et donc là, il y a deux prophétesses ou deux géantes vierges qui arrivent, qui s'appellent Venja et Menja. Et donc Frodi leur dit, ah ben venez me donner un coup de main, et puis servez-vous de la meule. Et donc elle dit, ah ok, donc là elle commence à travailler, donc meule, comment on dit
Elle
moule.
Elle travaille.
Elle mousse. Bon. Voilà, donc elle travaille tant et tant. Et puis donc elles font, au bout d'un moment, elles se disent, on va faire une pause quand même, parce que ça fait longtemps qu'on travaille. Et là, il y a Frodi qui arrive et qui leur fait, non. Il leur dit, ne vous endormez pas si ce n'est quand le coucou se tait, ou le temps qu'il me faut pour chanter un poème. Donc en gros, c'est moi qui dicte les lois. Vous dormez quand je vous le dis, sinon vous travaillez. Et donc elle fait, ah ouais, d'accord, tu veux qu'on travaille? Eh bien, on va travailler. Donc elle travaille. Puis elle commence à en avoir marre, donc là elle commence à chanter une chanson. Donc il y a un peu une sorte d'enchantement. Où elles disent qu'en fait elles continuent à travailler, mais en travaillant, elles créent en quelque sorte une armée. En fait, par la meule, elles créent une armée, elles mousent. Donc voilà, une grande armée, et puis en fait c'est un peu par prophétie, par incantation, qu'il y a une grande armée, un grand feu qui va détruire en fait le palais de Frodi, qui a eu le malheur de vouloir faire trop travailler ces pauvres femmes, ces géantes qui ne le voulaient pas et qui donc se sont vengées par la force de leur travail et par le chant de leurs paroles prophétiques, et donc qui résume à la fin. Mais la géante chanta ces paroles: avons moulu Frodi tant qu'il nous a plu, de bout en bout sont demeurées les femmes à moudre. Et donc oui, donc elles ont moulu tant et tant, et elles ont fini par vaincre le patronat. Et oui, donc avant aussi, la à force de moudre et de donc de créer cette armée qui va tuer ce méchant Frodi, le socle de la meule s'est rompu. Sinon, l'instrument de travail a été brisé. Donc tout ce qui reste de cette histoire, ce sont ces deux géantes et le chant qu'elles ont proféré.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu une réappropriation des moyens de production, mais une destruction des moyens de production. Ouais.
Ouais. Parce que ça, c'est une des histoires. En fait, il y a une autre variante où elles auraient emporté où il y aurait un roi qui passait par là, et donc il leur a demandé de moudre du sel. Et donc ils sont allés sur un bateau, ils ont fait du sel, et ils ont commencé à lui dire mais on continue à faire du sel, là il y en a beaucoup quand même. Et donc ils ont fait oui, vas-y. En fait ils en ont fait tant que le bateau a coulé, et c'est pour ça que la mer est salée en fait. Voilà. Mais bon, c'est la vraie histoire serait plutôt celle où
ça c'est une variante écolo presque. Voilà. c'est la surproduction.
Mais bon voilà, enfin moi je préfère la version où la dalle se casse. C'est plus rigolo quand même. Voilà, et donc c'est apparemment il y aurait eu des interprétations communistes de cette histoire.
Oui, bah on peut en faire, je pense, on peut en faire une. Hein. Frodi, c'est vraiment l'exploitant capitaliste, c'est le patron. Et bah peut-être la seule différence, c'est que là le travail des deux, comment elle s'appelle déjà?
De Menja et Benja.
Menja, bon, bref.
Ouais, Benja et ces deux trucs là.
Ouais, ben c'est un travail qui est utile en tout cas. C'est-à-dire que c'est pas le travail aliénant de l'ouvrier sur sa machine qui fabrique un produit qui ne destiné qu'à la consommation et qui ne va pas servir d'instrument de lutte cette fois-ci. C'est un travail qui va servir à l'ouvrier dans le cas de cette histoire. Alors que dans la réalité,
oui, le travail des... Mais c'est assez paradoxal parce que c'est aussi un travail qui leur est imposé. Au début, elles ont envie de le faire, c'est ça?
Voilà, en fait, elles rendent service au début, finalement. Et puis, au moment où ils abusent, où ils commencent à dire, non, vous travaillez tout le temps, vous faites parce que vous voulez, elles se disent, non, moi, je fais ce que je veux, tu n'es
pas. Oui, c'est pas une prise en otage via l'outil salaire.
Non, ça reste tout sur ce véhicule.
D'accord.
On n'est pas encore là.
Oui, mais ça montre aussi que les salariés ont le pouvoir finalement.
Et oui.
C'est quand les salariés sont des géants avec une puissance incroyable.
C'est vrai, mais en plus, il y aurait même une exégèse un peu marxiste à faire des Vikings eux-mêmes, parce que vous avez dit, bon, pour savoir justement si on pourrait en faire une lecture est-ce que les Vikings sont des prolétaires finalement? On pourrait se poser la question, parce que vous avez dit au début que c'était des paysans libres et propriétaires, c'est ça?
Oui.
Ouais. Et donc, en fait, vous avez dit qu'ils faisaient pas la guerre par plaisir, mais que c'était parce qu'ils étaient pauvres et c'était la nécessité de piller pour accaparer des richesses. Oui. Donc, ouais, là, on pourrait se poser la question, parce que bon, c'est pas de guerre pour la guerre, c'est pour piller les riches d'une certaine manière. Mm-hmm. Ouais. Mais, peut-être que la seule différence là, et le problème, c'est que par cette méthode de la guerre, on n'arrive pas à la société sans classe et au communisme parce que c'est la classe asservie qui devient d'un coup la classe possédante en mettant fin à la première classe possédante. Donc, ambiguïté, ouais.
Oui.
Il y a peut-être des similitudes, mais.
Oui, et puis,
les des commerçants, des propriétaires.
C'est ça, il a dit que c'était des paysans, mais ils étaient sans doute pas tous paysans.
Non, et puis il y a une hiérarchie avec des classes.
C'est ça,
le paysan, noblesse, le guerrier, et puis le roi.
Donc finalement, on a un peu vu aujourd'hui qu'à Montaigne-Oisetègue, les Vikings, voilà, ce peuple barbare aux os robustes, est en vérité un peuple sage à la plume fine. Mais pas seulement, hein, parce qu'ils ont quand même écrit des sacrées histoires un peu... Un peu ultra drôle, hein. C'était des sacrés déconneurs, c'est ça qu'on peut regarder les Vikings. Ils avaient beaucoup d'humour, ils ont inventé des histoires où la poésie naît d'un crachat des dieux. Voilà, ils ont fait des trucs quand même assez originaux, c'est ça, hein, monsieur Bertrand Fibien qui vous a intéressé, il me semble peut-être.
Oui,
c'était un peu de désinvolture.
Oui,
tout à fait.
Mais, pardon. Non, moi je voulais dire, quand on découvre la mythologie grecque, ça peut faire un peu cet effet-là aussi. Enfin, les mythologies, de manière générale, il y a toujours des choses qu'on trouve un petit peu farfelues.
Ouais,
il y a beaucoup de similitudes d'ailleurs, hein, par moments.
Bah, moins quand même. Moi je trouve que par exemple, si on compare avec l'Odyssée, c'est moins, voilà, c'est moins drôle, moins dingue.
Oui, parce que là, on peut avoir des passages de textes érotiques. Bon, non, j'en ai pas parlé, mais il y en a plusieurs, et puis enfin, il y a plein de trucs, et puis il y a de l'humour aussi, même de, qu'on trouve beaucoup moins dans.
Oui, c'est sûr. Ouais, c'est vrai.
Dans les autres mythologies, enfin, celles
que vous connaissez. Que vous connaissez, même si en grand spécialiste, en grand exégète, vous avez une culture, voilà, infinie.
Bien sûr. J'ai vendu mon œil aussi pour ça.
La lumière était revenue après Ragnarok. Le calme était retrouvé. Mais pour combien de temps ? Oui, pour combien de temps Radio Canu serait-il, serait-elle l'Yggdrasil réunificateur ? Pour combien de temps le studio de la place Satoné résisterait-il aux attaques de Loki ? Aujourd'hui, malicieusement déguisé en Marine Le Pen. Combien de temps le petit studio résisterait-il à la colère des géants, aujourd'hui nommés Crédit Lyonnais ou Caisse d'Épargne ? Nul ne le sait. Et je vous invite pour cela à écouter chaque semaine Montaigne Oiseteug pour savoir si, tout simplement, nous sommes encore là. C'est, voilà, l'offre que je vous fais à cette fin d'émission. C'est d'aller sur le blog Arte Radio, podcaster les émissions. C'est nous suivre sur Facebook, donner des sous à la radio. Tout ça pour voir pour combien de temps la radio va résister face aux foudres ténébreuses et vaincra peut-être un jour les puissances démoniaques dans un grand Ragnarok. Voilà, voilà.
Oui. La lutte continue.